3. Des choses auxquelles je pensais encore en retirant la bâche en plastique qui recouvrait le lit dans la chambre d'amis, où je dormirais une bonne partie des vacances de printemps, peut-être même toutes les vacances. Le lit était fait, mais les draps sentaient le renfermé et le moisi. Je les remplaçais par des draps propres trouvés dans le placard à linge. Était-il vraiment propre? Je n'en savais rien. En tout cas, il sentait moins mauvais. Et il y avait une autre parure pour le canapé convertible, ainsi qu'un couvre-lit. Je redescendis. Radar m'attendait au pied des marches. Je déposais les draps sur le fauteuil de M. Bauditch et constatais que j'allais devoir déplacer la petite table pour déplier le canapé. Au cours de l'opération, le tiroir s'entr'ouvrit. Je vis des pièces de monnaie, un harmonica si vieux que le chrome était presque entièrement parti, et un flacon de carprofène. Ce qui me fit plaisir, car je n'aimais pas penser que M. Bauditch ignorait les problèmes de vieillissement de sa chienne, et cela expliquait certainement pourquoi la dame de chez Pet Pantry avait accepté si facilement de m'en vendre. Toutefois, j'étais moins heureux de constater que le traitement n'était pas très efficace. Je lui donnais à manger, en glissant dans sa nourriture un comprimé provenant du nouveau flacon, en partant du principe qu'ils étaient moins vieux et peut-être plus puissants, puis remontais chercher un oreiller pour le canapé-lit. Quand je redescendis, Hadar m'attendait de nouveau en bas des marches. « La vache, tu as déjà tout mangé ?» La chienne remua la queue et s'écarta juste assez pour me laisser passer. Je retapais l'oreiller et le laissais tomber sur ce qui était maintenant un lit au milieu du salon. Monsieur Bauditch pesterait sans doute, mais on s'arrangerait. L'entretien des broches de son fixateur semblait assez simple. En revanche, j'espérais trouver dans « Les soins à domicile pour les nuls » une méthode pour le transporter de son fauteuil roulant, dans lequel il allait certainement arriver, à son lit et vice-versa. Quoi d'autre ? Mettre les draps sales dans le lave-linge. Mais ça pourrait attendre demain ou même lundi. Un téléphone. Voilà ce qui manquait. Il aurait besoin d'un téléphone à portée de main. Son poste fixe était un vieil appareil blanc sans fil qui semblait sorti d'un de ces films policiers des années 70 dans lesquels les types portaient des rouflaquettes et les nanas des choucroutes sur la tête. Je le retirais de son socle pour m'assurer qu'il y avait une tonalité. Au moment même où je le reposais, il sonna dans ma main. Je sursautais en poussant un grand cri et le laissais tomber par terre. Radar aboya. « Tout va bien, Fifi !» Je ramassai le téléphone. Il n'y avait pas de touche pour prendre la communication. J'étais encore en train de la chercher quand j'entendis la voix de M. Bauditch, métallique et lointaine.
« Allô ? Y a quelqu'un ? Allô ?»
Pas de touche pour prendre la communication et pas moyen de savoir qui appelait. Avec un téléphone aussi vieux, il fallait prendre des risques. « Allô ? » dis-je. « C'est Charlie, Monsieur Bauditch. »«
Pourquoi est-ce que Radar aboie ?»
J'ai crié en laissant tomber le téléphone. Je l'avais dans la main quand il a sonné.
« Oh, ça t'a surpris, hein ?»
Il n'attendit pas la réponse.
« J'espérais bien que tu serais là. C'est l'heure du repas de Radar. »
« Elle a déjà tout mangé, d'un coup !» Il laissa échapper un rire rauque.
« Je la reconnais bien, là !» Elle a du mal à tenir sur ses guiboles, mais elle a toujours de l'appétit.
Comment vous vous sentez?
Ma jambe me fait un mal de chien, malgré la drogue qu'ils me filent. Mais aujourd'hui, ils m'ont fait sortir du lit. Je dois me trimballer avec ce foutu fixateur et j'ai l'impression d'être Jacob Marley.
Ce sont les chaînes que je portais de mon vivant. Nouveau rire enroué. Je le sentais à moitié défoncé.
Tu as lu le livre ou vu le film ?
Le film ? Tous les ans à Noël sur TCM. On regarde beaucoup TCM à la maison.
Je sais pas ce que c'est.
Non, évidemment. Impossible de recevoir Turner Classic Movies sur une télé équipée seulement de... Comment Madame Silvius s'appelait ça ? Des oreilles de lapin.
Je suis bien content que tu sois là. Ils vont me laisser sortir lundi après-midi. Et il faut que je te parle avant. Tu peux venir me voir demain ? Mon compagnon de chambre sera dans la salle commune pour regarder le baseball. On pourra discuter tranquillement.
D'accord. Je vous ai préparé le canapé-lit. Moi, je prendrai le lit de la chambre d'amis et...
Tais-toi une minute, Charlie.
Il y eut un long silence. Puis,
garder un secret. C'est dans tes cordes. Comme faire un lit et nourrir mon chien.
Je repensais aux années d'alcoolisme de mon père. Ces années perdues. À l'époque, je devais me prendre en main très souvent et je ressentais de la colère. J'étais en colère contre ma mère. Je lui en voulais d'être morte de cette manière. Ce qui était idiot, car elle n'y pouvait rien. Mais souvenez-vous que j'avais 7 ans seulement quand elle a été tuée sur ce foutu pont. J'aimais mon père, mais j'étais en colère contre lui aussi. Un enfant en colère, c'est souvent synonyme de problème. Et j'avais un complice de choix en la personne de Bertie Bird. Quand on était avec Andy Chen, ça allait, car Andy était une sorte de boy scout. Mais dès qu'on était livrés à nous-mêmes, Bertie et moi, on faisait de sacrées conneries. Des trucs qui auraient pu nous valoir de sérieux ennuis si on s'était fait prendre. J'entends par là des ennuis avec la police. Heureusement, on s'est jamais fait prendre. Mon père n'a jamais rien su. Et si ça ne tenait qu'à moi, il n'en saurait jamais rien. Avais-je envie d'avouer à mon père que Bertie et moi, on avait maculé de merde de chien le pare-brise de la voiture d'un prof qu'on détestait? Rien que de l'écrire, alors que j'ai promis de tout raconter, je suis mort de honte. Et il y a eu pire.
Charlie, tu es toujours là?
Oui, je suis là. Et oui, je sais garder un secret. Du moment que vous ne m'avouez pas que vous avez tué quelqu'un et que le corps est caché dans le cabanon, cette fois, c'est lui qui demeura muet. Mais je n'avais pas besoin de lui demander s'il était toujours là, j'entendais son souffle rauque.
Non, rien de tel, Charlie. Mais ce sont des secrets importants. On en parlera demain. Tu me fais l'impression d'être un gars réglo. J'espère ne pas me tromper. On verra bien. Dis-moi, à combien se monte mon ardoise?
Vous voulez dire combien on a dépensé, papa et moi? Pas énormément. Le plus cher, c'était les provisions. En tout, il y en a pour $200 environ, je crois. J'ai gardé les tickets de caisse.
Il faut que tu comptes tes heures aussi. Si tu es décidé à m'aider, tu dois te faire payer. Que dirais-tu de $500 par semaine?
J'étais abasourdi. Monsieur Bodich, Howard, pas besoin de me payer. Ça me fait plaisir de...
Toute peine mérite salaire. Évangile de Luc. 500 par semaine, et si ça se passe bien, une prime de fin d'année. D'accord?
J'ignorais quel avait été son métier, mais il n'avait pas gagné sa vie en creusant des tranchées. Il savait manier ce que Donald Trump appelle l'art de la négociation. Autrement dit, il savait surmonter les objections. D'autant que les miennes étaient assez faibles. J'avais fait une promesse à Dieu, mais si M. Bodich voulait me payer pendant que je tenais ma promesse, je n'y voyais aucune contradiction. Et puis, comme me le rappelait sans cesse mon père, je devais penser à l'université.
Marché conclu, Charlie.
Oui, d'accord, si ça fonctionne. Mais s'il m'avouait être un serial killer, je ne garderais pas son secret pour $500 par semaine. Il faudrait qu'il double la somme au moins. Je plaisante. Merci, mais je ne fais pas ça pour...
Je sais,
me coupa-t-il. Un maître en la matière, ce monsieur Howard Bodich.
Tu es un jeune homme charmant à bien des égards. Et un gars réglo, comme je le disais.
Le penserait-il encore s'il savait qu'un jour où on avait séché les cours, Birdman et moi, on avait trouvé un portable dans Highland Park avec lequel on avait appelé l'école primaire Stevens pour lancer une fausse alerte à la bombe? L'idée venait de lui, mais j'avais suivi.
Dans la cuisine, il y a une boîte de farine. Tu l'as peut-être vue.
Non seulement je l'avais vue, mais il m'en avait déjà parlé. Il avait peut-être oublié car il souffrait beaucoup à ce moment-là. Elle contenait de l'argent, avait-il précisé, avant d'affirmer qu'elle était vide. Il s'était trompé. « Oui ?» dis-je.
« Prends $700 dedans. 500 pour ton salaire hebdomadaire et 200 pour rembourser les frais. Jusqu'à maintenant. »«
Vous êtes sûr ?»«
Oui. Et si tu crois que c'est pour te soudoyer, pour t'amadouer dans le but de te faire une proposition scandaleuse ?» Absolument pas. C'est pour service rendu, Charlie. Pour service rendu. Sur ce point, tu peux être parfaitement honnête avec ton père. Concernant tout ce dont on pourrait parler à l'avenir, non. Je sais que c'est beaucoup demandé.
Du moment que ce n'est pas un crime grave, précisai-je.
Peux-tu venir à l'hôpital vers 15 heures ?
Oui.
Dans ce cas, je te dis bonsoir. Fais une caresse à Radar de la part du vieil idiot qui n'aurait pas dû monter sur cette échelle.
Il raccrocha. Je tapotai plusieurs fois la tête de Radar et lui fis de longues caresses, de la tête à la queue. Elle roula sur le dos pour se faire masser le ventre. Je me fis un plaisir d'obéir. Après quoi, je me rendis dans la cuisine pour soulever le couvercle de la boîte de farine. Elle était bourrée d'argent. Il y avait un millimélo de billets sur le dessus, de 10 et de 20 principalement, mais aussi quelques billets de 5 et d'un dollar. Je les sortis de la boîte. Ils formaient un joli tas sur le comptoir. Sous ces billets en vrac se cachaient des liasses de billets de 50 et de 100, maintenues par des ganses de papier portant la mention « First Citizens Bank » à l'encre violette. Je les sortis également, non sans mal car elles étaient tassées. 6 liasses de 10 billets de 50, 5 liasses de 10 billets de 100. Radar m'avait rejoint dans la cuisine. Assise à côté de sa gamelle, elle m'observait, oreille dressée. « La vache, ma vieille, il y a 8 000 $ en tout, sans compter les billets en vrac sur le dessus. » Parmi lesquels je comptais 700 $, que je lissais et pliais soigneusement avant de les glisser dans ma poche, où ils formèrent une bosse. C'était 10 fois plus d'argent que je n'en avais jamais eu sur moi. Je commençais à remettre les liasses dans la boîte, puis m'arrêtais. Il y avait 3 petits plombs au fond, rougeâtres. J'en avais déjà vu un dans l'armoire à pharmacie. Je renversais la boîte pour les faire glisser dans ma paume. C'était trop lourd pour être des balles de carabine à air comprimé, et si mon raisonnement était juste, il pouvait expliquer l'origine des revenus de M. Bowditch. Je pensais que c'était de l'or. 4. Je n'étais pas venu à vélo et le trajet à pied jusqu'à la maison ne prenait que 10 à 12 minutes. Mais ce soir-là, je choisis de le faire durer. Je devais réfléchir et prendre une décision. En marchant, je palpais la bosse dans ma poche pour m'assurer qu'elle était toujours là. Je parlerai à papa de l'appel de M. Bowditch et de son offre d'emploi. Je lui montrerai les billets, 200 $ pour rembourser ce qu'on avait acheté et 500 pour moi. Je lui demanderai de mettre 400 $ sur mon compte épargne pour la fac, à la First Citizens justement, en promettant de faire pareil chaque semaine tant que je travaillerai pour M. Bowditch, ce qui pourrait durer pendant tout l'été ou au moins jusqu'à la reprise des entraînements de football en août. La question était de savoir si je devais lui dire combien il y avait dans la boîte de farine. Et bien sûr, devais-je lui parler de ces plombs de carabine à air comprimé en or, s'ils étaient vraiment en or. Lorsque je poussai la porte de la maison, ma décision était prise. Je garderai pour moi l'existence des 8 000 $ et des plombs de carabine qui n'en étaient pas, au moins jusqu'à ce que j'aie écouté ce que M. Bowditch avait à me dire le lendemain.
« Bonsoir, Charlie !»
me lança papa du salon.
« La chienne va bien ?»«
Oui, très bien. »«
À la bonne heure. »« Va chercher un Sprite et prends-toi une chaise. Il passe fenêtre sur cour sur TCM. »
J'allais chercher un Sprite, entrais dans le salon et coupais le son de la télé. « J'ai un truc important à te dire. »«
Qu'y a-t-il de plus important que James Stewart et Grace Kelly ?»«
Ça, par exemple. » Je sortis les billets de ma poche et les lâchai au-dessus de la table. Je m'attendais à une réaction de surprise, de méfiance et d'inquiétude. J'eus droit à une réaction intéressée et amusée. Pour papa, cacher de l'argent dans une boîte de farine correspondait tout à fait à ce qu'il appelait la manie du stockage des agoraphobes. Je lui avais parlé du musée des vieux papiers, de l'antique téléviseur et des appareils électroménagers d'une autre époque.
« Il y en avait d'autres, des billets ?»
demanda-t-il.
« Quelques-uns. » Ce n'était pas un mensonge.
« Tu as regardé dans les autres boîtes ? Il y a peut-être des centaines de dollars cachés dans le sucre.
Il souriait. Non. Il prit les 200 $.
C'est un peu plus que ce qu'on a dépensé, mais il aura sûrement besoin d'autres trucs. Tu veux que je dépose les 400 sur ton compte ?
Oui.
Très bonne idée. En un sens, il fait une affaire avec toi. Pour la première semaine, en tout cas. Une aide à domicile à temps plein lui coûterait plus cher. D'un autre côté, tu seras payé pour apprendre. Et puis, tu ne dormiras là-bas que pendant les vacances de printemps.
Il se tourna vers moi pour me regarder droit dans les yeux.
On est bien d'accord.
Oui, absolument.
Bien. Cet argent planqué me met un peu mal à l'aise, car on ne sait pas d'où il vient, mais je suis prêt à accorder le bénéfice du doute à M. Bowditch. Je suis content qu'il te fasse confiance, et je suis content que tu sois prêt à relever ce défi. Tu pensais faire tout ça gratuitement, hein ?
Oui.
Tu es un brave garçon, Charlie. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter.
En pensant à tout ce que je lui cachais, au sujet de M. Bowditch, mais aussi de toutes les conneries que j'avais faites dans le temps, je me sentis un peu honteux. Ce soir-là, couché dans mon lit, j'imaginais que le cabanon de M. Bowditch cachait une mine d'or dans laquelle s'activaient des nains. Des nains qui portaient des noms tels que Grincheux ou Dormeur. Cette idée me fit sourire. Je devinais que le contenu de ce cabanon était peut-être ce grand secret dont il voulait me parler, mais je me trompais. Je ne découvris que plus tard la vérité au sujet du cabanon.